Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau, votre compagnie. Ce dimanche 1er février, voilà, dans les studios, on a M. Pierre-Yves Martin, maire de Livry-Gargan, qui sera candidate à nouveau pour les élections municipales du 15 et 22 mars. Après, on parlera du premier tour des élections présidentielles au Portugal. Une polémique est née, la presse, mais les partis de gauche portugais aussi, qui accusent la communauté portugaise, éparpillée un peu dans le monde, d'être d'extrême droite. Mais enfin, on verra tout ça. Et on parlera également de la section internationale portugaise du lycée Collège International Honoré de Balzac, Paris 17e. En effet, il va y avoir une journée porte ouverte samedi prochain, 7 février. Et pour terminer, on va démarrer l'opération 4e édition du festival Regard Satellite du 13 au 22 février au cinéma L'Écran de Saint-Denis, mais pas seulement. Monsieur Pierre-Yves Martin, bonjour et merci d'être venu. Hein.
Merci beaucoup pour votre invitation. À cette radio qui est écoutée, je sais, par de nombreux Portugais qui vivent en France, et je suis ravi de pouvoir participer à ces échanges avec vous.
Alors, Livry-Gargan, c'est pas la porte à côté. Heureusement que c'est dimanche, hein, y a pas beaucoup de circulation.
Non, c'est pas la porte à côté, mais c'est pas si loin que ça. En effet, en dimanche, on peut circuler plus facilement en Ile-de-France.
Voilà, Livry-Gargan est situé en Seine-Saint-Denis. Des gens qui parlent du 9-3, mais par rapport à ça, pourquoi est-ce que nous, bon, moi j'habite en banlieue aussi, on dit, ah, t'habites en banlieue, ah, t'habites dans le 93, ah, on est stigmatisé d'une certaine façon, non?
Voilà, la Seine-Saint-Denis a souvent été stigmatisée, mais c'est un département riche, et Livry-Gargan est aussi une ville dynamique avec différentes... culture, différentes personnes vivant avec différentes origines, mais c'est aussi ça, la richesse d'une commune et de la faire vivre aussi au sein d'une commune.
Alors oui, le territoire, il est assez vaste et diversifié. Alors, Monsieur Martin, vous êtes élu maire la première fois en 2014, soutien de l'UMP, puis bon, c'est les Républicains actuellement. En 2020, vous avez été réélu avec le soutien de La République En Marche, donc le parti s'appelait comme ça, de M. Emmanuel Macron, dès le premier tour. Donc 61,11% des votants, bon, c'est pas mal. Président de l'Association des maires de France de la Seine-Saint-Denis, élu en 2018. Alors, première question, et le sport dans tout ça, M. Martin? Le sport, c'est une passion, et pas seulement. Hein, de...
Exactement, c'est une passion personnelle déjà. Mm-hmm. Je m'entretiens régulièrement et je fais du sport régulièrement. Ça permet d'avoir un équilibre, je pense, dans ma vie personnelle et dans mon mandat. Donc je fais en effet quelques marathons chaque année. Et c'est permet aussi cet équilibre nécessaire dans l'exercice d'une mission... comme élu et comme comme maire, et puis c'est aussi un message aussi à porter en tant que élu, c'est de porter que le sport est indispensable pour chacun et chacune, et que faire du sport, c'est aussi bon pour la santé et aussi pour l'épanouissement de chacun. Et donc c'est pour ça qu'on promeut le sport au sein de la ville de Livry-Gargan avec un tissu sportif très important. Et de nombreuses associations, avec aussi des dispositifs que nous mettons en place pour la reprise d'activité ou la mise en place de structures sportives en accès libre.
Alors ça n'empêche que, bon, au niveau des derniers gouvernements, sport, une priorité au niveau de l'école, mais le problème, c'est qu'il faut avoir des terrains, il faut avoir tout ça. Comment ça se passe au niveau de Livry-Gargan? Il y a des terrains. Comment ça se passe avec les écoles? Bon, normalement, c'était obligatoire une fois par semaine. Je ne sais pas comment ça se passe à Livry-Gargan.
Alors oui, c'est le sport, et on se demande souvent si le sport est une priorité, même pour l'éducation nationale. C'est vrai qu'on a eu les Jeux Olympiques paralympiques qui se sont déroulés en 2024. Quand on voit les orientations budgétaires de ces deux dernières années à l'issue des Jeux Olympiques, où beaucoup de coupes budgétaires ont pu être effectuées, notamment sur le budget du sport, on peut se demander si l'ambition est là. Et puis, en effet, pour une collectivité... c'est mettre en place des équipements sportifs. Livry-Agon, nous sommes plutôt bien dotés pour répondre à cette la pratique sportive, notamment sur le milieu scolaire, puisque généralement à proximité des écoles il y a un gymnase, donc on encourage la pratique, et puis on a mis en place des dispositifs comme le sport à l'école avec en partenariat avec les associations sportives pour permettre notamment à ce que les clubs puissent venir dans les écoles avec leurs leurs éducateurs, notamment
faire
pour et faire des animations et proposer des activités.
Alors, monsieur Pierre-Yves Martin, au mois de mars, donc, vous avez allé briguer un nouveau mandat. Alors, les dernières années, on peut dire qu'elles ont été difficiles pour en heure. Covid, confinement, réduction des dotations de l'État, augmentation du prix de l'énergie. J'ai l'habitude de dire que c'est la quadrature du cercle, tout ça.
Ah, c'est vrai que depuis 2020, les communes ont en effet été confrontées à une crise sanitaire avec le Covid qui a été immédiat et nous avons dû faire face et à Livry-Agon, nous avons su tenir un cap. Nous avons mis en place rapidement un centre de vaccination en lien avec l'Agence régionale de santé et les professionnels de santé pour permettre à ce que le maximum de personnes puissent être vaccinées. D'ailleurs, ce centre de vaccination a été l'un des plus grands de Seine-Saint-Denis, en dehors du Stade de France notamment. Donc ça montre qu'on avait une capacité d'accueil, de réponse. Voilà. Puis après, en effet, il y a la crise un peu énergétique et économique que les collectivités ont subi. Hein. Énergétique, en effet, le coût et l'augmentation des fluides a un impact, en effet, sur l'ensemble des foyers. Voilà, mais aussi pour les collectivités, ça a été quasiment budgétairement 2,8 millions de plus en termes de coûts sur l'énergie pour une collectivité, donc qui forcément a dû permettre de réinventer et trouver des solutions pour permettre, en effet, d'anticiper, de prévoir comment on peut, dans le futur, mettre en place des dispositifs pour réduire ses coûts énergétiques.
Voilà, donc là, ça me fait penser immédiatement comment établir un budget. C'est pas évident, au milieu de tout ça. En même temps, les gouvernements successifs ont accusé les collectivités territoriales, locales, d'être responsables du déficit public. Alors, dans ces conditions-là, établir un budget, parce que vous êtes obligé d'être en équilibre, donc forcément, on va couper. Alors, on augmente les impôts.
Là. C'est vrai que la situation en France est quand même un peu aujourd'hui très complexe. Quand la France a 3500 milliards de dettes aujourd'hui.
100 et quelques pourcents du PIB.
Et donc aujourd'hui, comment résoudre cette situation? En effet, on fait porter le chapeau aux collectivités. Pourtant, depuis tout temps, les collectivités doivent présenter un budget à l'équilibre. Contrairement d'ailleurs au budget de l'État, qui n'est pas forcément équilibré chaque année, et ça depuis près de 40 ans. Aujourd'hui, la situation pour les collectivités, en effet, avec une épée Damoclès, chaque année, il y a des discussions pour comment on peut faire participer les collectivités à l'effort, notamment de résorption de la dette. Cette année encore, c'est 20 milliards qui vont être demandés dans le budget 2026 aux collectivités.
Collectivités, c'est 3 et quelques milliards.
Oui. Et donc aujourd'hui, Livry-Agon n'a pas été impacté, ne sera pas impacté de nouveau par cette situation, même si on est quand même avec des épées de Damoclès, parce que c'est des petites mesurettes aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, le coup près pourra tomber pour les collectivités. Et donc en fait, pour une ville, équilibrer un budget demande d'être très ingénieux aujourd'hui.
Alors, parlons de la ville, parce que quand on parle de la ville, il y a des habitants, il y a la vie, tout court, le quotidien. Alors, par rapport aux services publics, on sait très bien qu'ils sont en train de disparaître petit à petit. Bon, bonjour, le digital, bon, c'est une bonne excuse. Comment ça se passe au niveau des services publics rapidement? Parce qu'il y a des bureaux de poste qui ferment, il y a des permanences de la CAF qui ferment, il y a des permanences de la Sécurité sociale qui ferment, même les PMI, etc. Quelle est la situation à Livry-Gargan?
À Livry-Agon, on est même confronté à quelques situations comme celle-ci, avec, en effet, plus forcément de sécurité sociale, d'interlocuteurs liés notamment à tout ce qui est accompagnement avec la CAF et ainsi de suite. Nous, on a mis en place, et on a pu bénéficier de la mise en place d'une maison France Service sur la commune de Livry-Argan, avec différentes interventions que j'ai pu faire auprès du préfet. Et même si au départ, nous n'étions pas éligibles à cette maison France Service, nous avons pu finalement, avec quelques pressions, obtenir cette maison France Service qui permet de répondre à ce que vous évoquiez, à cette distance des services publics avec les habitants et qui amène forcément et souvent une frustration de ne pas pouvoir, voilà. Et
donc cette maison France Service a ses droits des fois.
Et maison France Service aujourd'hui a son utilité sur le territoire de la commune de Livry-Argan pour permettre de pallier encore à cette on peut appeler désertification des services publics.
Alors on a l'habitude, c'est pas spécifique à la région Île-de-France, la France, en France entière, le problème c'est exactement pareil. Quand, avant même qu'on conçoit un enfant, et pourtant il paraît, il faut réarmer le pays, il faut faire des enfants en France, merci Monsieur Macron, justement, alors, c'est-à-dire, avant même de concevoir un enfant, on inscrit l'enfant en crèche. Comment ça se passe à Livry-Argan? Parce qu'en plus, il y a tout un tas de petites crèches qui commencent à naître un peu partout, privées, parfois avec des problèmes de sécurité et pas seulement. Il y a des bébés qui sont morts à cause de ça. Comment ça se passe à Livry-Argan? Parce que là, ça passe par vous.
Alors, nous, les crèches, c'est un choix, sont à 80% municipales, donc gérées par la ville, et donc permettent aussi d'avoir une... d'assurer une sécurité et rassurer les parents. On a quelques crèches privées où la ville prend des berceaux et donc on permet aussi d'avoir un contrôle.
Donc vous avez un droit de regard.
Un regard sur le fonctionnement des crèches privées auxquelles nous prenons des berceaux. Et donc c'est à peu près notre fonctionnement aujourd'hui sur la ville de Livry-Argan. On est satisfait quand même aujourd'hui avec les crèches que nous avons, 60% des demandes.
Donc, il y a 40% des parents qui restent...
Après, il y a
la nounou, mais... Enfin...
Il y a d'autres systèmes, en effet. Nous avons aussi d'assistantes maternelles qui permettent d'assurer la complémentarité avec les structures municipales.
Mais par rapport aux crèches privées, est-ce que vous vérifiez si les gens qui travaillent sont habilités à le faire, si le quota du nombre de personnels par rapport au nombre d'enfants...
Le contrôle des crèches s'effectue plutôt par le département la caisse d'allocation familiale. Voilà. Alors que les villes les maires n'ont pas ce regard sur le fonctionnement des crèches privées, sauf quand on a des réservations de berceaux.
D'accord. Mais par rapport au financement, la CAF participe ou pas?
Oui, la CAF participe en effet au financement.
Donc ça vous aide à...
Des structures municipales, notamment, et ça nous aide en partie, en effet, dans le fonctionnement et les coûts.
Alors, une autre question, on sait très bien, aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un salaire pour trouver un logement. Bon, je ne sais pas parce qu'il y a une... On parle d'inflation, mais c'est peut-être autre chose, pire qu'une inflation. Et alors, comment ça se passe au niveau de logement chez vous? Parce que il y a un certain nombre de départements, un certain nombre de maires disent, bon, les logements sociaux, il y en a assez. Maintenant, on passe à autre chose. Comment ça se passe à Livry-Argan?
Alors, oui, on est en période de campagne et c'est vrai qu'on entend tout sur le logement, que les maires, quelle que soit leur obédience politique, ils construisent trop. Déjà, on construit en fonction des obligations légales que l'État nous a fixées.
Les 25% environ.
25% de logements sociaux ou l'offre de territorialisation de l'offre de logement qui était imposée par l'État chaque année, plus ou moins sur une période annuelle. Donc, les villes répondent à ces besoins.
Vous êtes à quel pourcentage?
Nous, on est à 23,9% sur la loi SRU. Donc, on est à la proximité des 25%. Et on essaye d'avoir un équilibre tant dans la construction pour ne pas avoir l'effet où l'État va nous imposer les choses, puisque si on ne respecte pas la loi, c'est l'État qui va prendre la main.
Oui, il y a une amende. Il y a quand même une amende. Il y a des gens, il y a des mairies. Bon,
oui, je... oui, mais ils payent une amende. Ils peuvent aussi perdre leur pouvoir de préemption. Et moi, je ne souhaite pas qu'on arrive et que la commune arrive à cette situation, parce que ça pourrait être aussi. Il n'y aura pas ce regard très méticuleux sur l'équilibre. Et l'harmonie de la commune.
Mais monsieur le maire, donc, pour vous, il s'agit de trouver un équilibre, parce qu'il ne s'agit pas de... Oui. Il faut empêcher, surtout des ghettos, je pense, parce qu'il y a certaines villes que malheureusement...
C'est pour ça qu'il faut travailler sur un parcours résidentiel. Mmh. Je le dis souvent, il faut trouver du logement social, de l'accession à la propriété, comment aussi accompagner l'accession à la propriété. Alors même si depuis la suppression de la taxe d'habitation... le fait d'être propriétaire pose et peut amener à un certain rejet de l'accession à la propriété. Je pense qu'aujourd'hui, il faut encourager et mettre en place des systèmes autres que le logement, l'accession sociale et autres, qui permettent de favoriser l'accession à la propriété et de construire un véritable parcours résidentiel. Sur le logement social, on pourrait en dire plus. Il faudrait recalibrer, à mon avis, aussi le logement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des personnes peuvent accéder au logement social. C'est-à-dire que si 80% des personnes peuvent y accéder, c'est qu'il faut peut-être revoir aussi la dimension du logement social, les critères d'attribution du logement social.
Ben ça, il y a tout un débat là-dessus, mais monsieur le maire, vous êtes obligé de reconnaître quand même qu'aujourd'hui, un couple qui travaille... Des fois, ça suffit pas quand ils ont des enfants. Trouver un logement, déjà, bon, donc, un couple avec deux enfants, il faut au minimum un F3, un F3, un F4, bon, il faut la moindre chose. Alors, ça coûte combien, c'est-à-dire? Parce qu'il y a un problème, mais je pense que, de temps en temps, on va taper à la porte de la mairie, dire, écoutez, j'ai un problème de logement, je trouve que c'est aussi, on travaille, on a deux salaires, on n'arrive pas à boucler le mois. Ben, il y a quand même un côté social, humain, qu'il faut regarder au-delà des chiffres.
Ah oui, il y a un côté humain et je trouve que voilà, un couple qui travaille et qui ne peut pas accéder à un logement, alors il y a des solutions, des créations qui ont été faites, le logement locatif intermédiaire, mais qui projette et qui a une projection sur 11 ans pour devenir propriétaire, c'est trop long. Je pense qu'il faut avoir aussi des systèmes qui soient plus souples ou qui permettent d'avoir cette possibilité de donner à 5-6 ans la possibilité à travers des modèles sociaux où on devient propriétaire au bout de 5-6 ans, on peut devenir propriétaire et avoir la possibilité d'acheter.
Et au niveau des fonciers, vous avez ça existe encore des terrains, parce que là il y a un problème aussi, c'est bon, végétalisé, pardon, c'est dans la mode aujourd'hui, il faut qu'on respire, parce que bon, il y a un changement au niveau de...
Alors à Livry-Gargan, on est plutôt une commune où il y a des espaces verts et ainsi de suite, on a eu la ville là-bas. La plus verte de Seine-Saint-Denis, parce qu'on a 80 hectares d'espaces verts communaux, ce qui est très rare, et ce qui peut être très rare en Seine-Saint-Denis. Et donc derrière, c'est en effet, en termes de foncier, la ville n'en a plus tellement, mais on a mis des règles dans le plan local d'urbanisme intercommunal permettant d'avoir ces espaces de respiration, de pouvoir renforcer notamment... la pleine terre dans les zones pavillonnaires, la protection des zones pavillonnaires. On a 70% de l'habitat en zone pavillonnaire à Livry-Gargan, ce qui aussi rend attractif notre commune, puisque beaucoup de personnes viennent sur la territoire.
Il n'y a pas de tours, pas des...
Il y a très peu de tours, et ça permet aussi à ce que donner à cette attractivité où des familles viennent s'installer à Livry-Gargan parce qu'il y a ce cadre de vie, parce qu'il y a aussi des écoles. Qui sont avec des écoles élémentaires, mais aussi des collèges et des lycées, qui sont bien présents sur le territoire. On est d'ailleurs la première ville de Seine-Saint-Denis en secondo accédant.
Qu'est-ce que ça veut dire, pardon ?
C'est-à-dire que les familles qui font leur deuxième acquisition de préférence dans la ville de Livry-Gargan.
Et ça, c'est important parce que finalement, de génération en génération. Les gens, ils peuvent rester, quoi, parce que les jeunes ne sont pas obligés de partir ailleurs pour trouver...
C'est ça, et ça donne aussi... Et les familles qui s'installent sur Livry-Gargan se projettent sur une durée de 15-20 ans, tout en assurant la scolarité de leurs enfants.
Alors, un gros problème qu'ont les maires aussi, et les habitants, c'est les centres-villes. Souvent, il y a beaucoup de villes où le centre-ville, il est mort. Il est mort, tout simplement, les petits commerces disparaissent. Bon, parce que les centres commerciaux, ça ne pardonne pas... avoir un petit commerce, sachant le prix des loyers, des que les commerçants payent. Comment ça se passe au niveau de Livry-Gargan? Est-ce que quand il y a un commerce qui ferme, vous dites, bon, attention, je vois pas de, je ne sais pas quoi, bon, je vais pas te donner un exemple, mais souvent, il y a les commerces de bouche qui disparaissent. Même les cafés, les bistrots, ou les troquets, comme on les appelait aussi dans le temps. Et comment ça se passe au niveau des centres-villes? Donc, ils restent vivants. Il y a un tissu commerçant, et là, je parle souvent, c'est des artisans. Hein.
Alors, à Livry-Gargan, je tiens à rappeler que le nombre de commerces vacants est très faible. C'est 4% seulement. Donc il y a en effet une activité commerçante qui est existante même dans les centres, dans les deux centres-villes, puisque Livry-Gargan est composé de deux rues principalement commerçantes à l'est et à l'ouest de la commune, le traditionnel boulevard de Chanzy et le quartier et le secteur de Libération Eugène Massé. Donc les commerces sont pas forcément vacants. Après c'est la diversité qui est demandé, et comme vous pouvez l'évoquer, notamment sur les commerces de bouche, qui pouvaient exister il y a 20 ans ou 30 ans. Après, je le dis souvent, hein, déjà je le rappelle que il existe, même si il existe le droit de préemption pour la possibilité de préemption pour une commune, elle est contrainte, elle doit respecter le droit commercial, et puis, d'autre part, quand on préempte, et on peut pas tout préempter, il y a un coût pour la commune, et puis derrière il faut retrouver
un repreneur.
Donc ça c'est souvent parfois une difficulté pour
une
commune.
De commerce,
et les commerces de bouche aujourd'hui, il faut aussi se mettre aussi dans la situation que la situation sur les commerces de bouche, c'est que notre mode de consommation a forcément changé. Je le dis souvent pendant les réunions publiques, parce qu'on peut reprocher qu'il n'existe plus forcément de commerce de bouche traditionnel, nos consommations, on consomme forcément un peu moins de viande, et donc forcément, contrairement à il y a quelques années, et donc forcément, le commerçant de bouche doit payer le loyer, qui doit payer les charges, et ainsi de suite, la gestion, et ainsi de suite, réfléchit avant de s'installer dans une boutique ou dans un local commercial. Et donc, en fait, il faut trouver aussi les moyens d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons l'objectif de créer des halles gourmandes où les coûts sont moindres pour le commerçant qui souhaite s'installer et il peut mieux gérer forcément son stock et la partie administrative.
Voilà, d'avoir une charcuterie.
Exactement. Dans des halles, ça peut permettre, en effet, aussi d'avoir et de réduire les coûts.
Ah oui, fromager, bon, je passais le meilleur. Bon, dans le temps, il y avait même des boucheries chevalines. Bon, enfin, bon. De toute façon, on va pas refaire le monde, on s'en fout. La banlieue, un grand problème, c'est les transports. Il paraît que non, vous avez des transports en commun. La voiture reste à la maison, on prend le transport en commun. C'est pas évident de prendre les transports en commun, surtout pour ceux qui commencent tôt et finissent tard. Par quoi Livry-Gargan est desservi?
Alors il y a eu des Livry-Gargan aujourd'hui, il y a un réseau de bus géré par Île-de-France Mobilité. Il y aura en périphérie de Livry-Gargan, mais pas très loin, les deux gares du Grand Paris Express, les lignes 16 du Grand Paris Express.
En 2027.
2027. Bon, il y a eu des histoires malheureusement et des choix et on le sait très bien pour des moyens de transport qui n'ont pas été pensés en 2008-2009. Et à ce moment-là, il y avait un décalage de vision du maire et des équipes en place où des choix ont été faits de pas mettre en avant une gare sur le territoire de la commune.
Un choix de bureaucrate.
Et je pense qu'en 2000, voilà, ces choix-là, aujourd'hui, bien sûr, impactent Livry-Gargan, puisqu'on n'a pas de gare directement sur la commune. Ils sont pas très loin, mais il faut aussi penser au réseau de bus aujourd'hui pour pouvoir les desservir. Et puis, je le dis souvent, c'est pour utiliser les transports, il faut aussi qu'ils soient sûrs et ponctuels. On a eu un très bon exemple, c'est pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les transports ont magnifiquement bien fonctionné, ont rassuré les usagers. Et aujourd'hui, je pense que aussi, on doit aller dans ce sens-là pour que le mode de transport et les moyens de transport puissent être mieux utilisés.
Alors, on sait faire. On sait faire.
D'ailleurs, on sait faire, oui, on l'a bien vu.
Les bus sont desservis par quelle entreprise?
Alors, elles sont...
Il y a encore la RATP. La RATP, c'est disparu.
Il a disparu. Il y a différents... les modèles qui ont été dans les appels d'offres rendus par la région Île-de-France.
Voilà, donc privatisation. Bien que ces entreprises-là... elles sont des filiales, entre autres, le SNCF.
C'est compliqué. Entre autres,
ouais. Alors, monsieur Pierre-Yves Martin, on arrive à la fin. Mais je voudrais quand même parler du jumelage avec Fulgence. Donc, c'est une ville du côté du nord Portugal. Donc, vous avez signé la charte d'amitié le 18 juillet, justement, à Fulgence, et puis à Livry-Garon le 23 juin 2024. Alors, question bête, je m'excuse. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est vrai que c'est une charte d'amitié que nous avons conclue avec une association qui est présente sur le territoire de Livry-Garon, l'association ASCOP qui avait de la famille à Novant Forjares et à côté d'Esposende. Et donc on a souhaité avoir ce lien avec cette commune. On a fait différents échanges à travers notamment la signature de la charte de l'amitié, moments d'échange, puisqu'on a chaque année l'association ASCOP qui organise à Livry-Garon une fête de la cerise avec des représentations de la culture portugaise. Et généralement, il y a aussi des personnes de Forjares qui viennent.
Ils viennent
ici. Et on a pu faire, lors de cette charte de 2024, un spectacle pour les habitants et perpétuer aussi les traditions du Portugal à Livry-Garon.
Monsieur Martin, est-ce qu'il y a eu des échanges au niveau scolaire ou pas?
Pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'échanges au niveau scolaire. On est en train de travailler pour mettre en place des échanges au niveau sportif, notamment avec le football. Et c'est un travail qui est en cours pour les années futures, sachant que le maire de Forjares vient d'être réélu maire il y a quelques semaines.
Il y a quelques semaines. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des échanges scolaires et je vais dire que ce sera ma dernière question par rapport à la langue portugaise. La langue portugaise, ça fait longtemps que ça a dépassé le cadre communautaire. C'est une langue mondiale, c'est une langue de travail, donc c'est un atout professionnel aussi. Et alors, au niveau des municipalités, vous avez la responsabilité de l'enseignement élémentaire, ce qu'on appelle l'école primaire. Justement, et normalement tous les ans, au début de l'année, le directeur de l'école doit faire circuler un questionnaire en disant, est-ce que vous voulez que votre enfant apprenne une langue étrangère? C'est pas spécifié de laquelle, c'est l'allemand, l'italien, le russe, le chinois, bonjour. Et souvent, ils oublient. Mais alors, justement, quel est votre rapport par rapport à ça? Et sachant, d'autant plus que vous avez une sorte d'amitié avec une ville portugaise, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire par rapport à cette défense, entre guillemets, justement, que les langues des citoyens qui habitent la ville puissent être enseignées au niveau des écoles primaires?
Alors, à Livry-Garon, le message plutôt passe bien de présenter les... et demander aux élèves, parce que mes enfants sont scolarisés dans une école publique, et donc chaque année on a ce document et cette demande d'information. Après on met en fonction des retours de l'éducation nationale et des possibilités qu'ils peuvent mettre en place et des moyens nécessaires à l'apprentissage de la langue. Et comme vous l'avez dit, la langue le portugais est une langue qui de travail, notamment en Amérique du Sud
et en Afrique.
Et donc aujourd'hui je pense aussi un travail de fond. Donc je sais que beaucoup de livriens de la communauté portugaise vont au Rinci prendre et continuer les cours et le transmettre cette langue.
Ouais. Voilà. Donc, et pourtant, bon, il existe des sections internationales, au moins on en parlait d'une, à Paris 17, au boulevard Bessières, collège lycée Honoré de Balzac, il existe au niveau du collège, et même au niveau du primaire. Bref, c'est une autre question. Monsieur Pierre-Yves Martin, merci. Donc, je rappelle, maire de Livry-Garon. Ah, et aux élections du 15 et 22, vous allez avoir un adversaire, entre autres, hein, quelqu'un de Les Républicains, l'ancien soutien, votre soutien.
Oui, il y a différentes listes qui se présentent, et bien sûr, moi je me présente avant tout comme livrien.
Sans étiquette.
Sans étiquette, je suis avec une équipe d'hommes et de femmes engagés qui habitent Livry-Gargan depuis plusieurs années. Je suis livrien de naissance et c'est mon parti est avant tout Livry-Gargan parce que c'est cette ville que je souhaite la protéger, lui assurer une stabilité aussi face aux incertitudes qu'on a pu évoquer, économiques, sanitaires, financières. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de continuer et d'avancer avec les Livriens, avec sérénité et dans la confiance.
Comme on dit en Occitanie, volen viure el país. Monsieur Pierre-Yves Martin, je vous remercie.
Merci.
Maintenant, on va parler d'une polémique qui a surgi au Portugal. C'est au sujet du vote de la communauté portugaise à l'étranger. Bon, plusieurs millions de personnes, 4, 5, 2, 3, bon, on n'est pas d'accord. C'est cette votation au premier tour de l'élection présidentielle du mois de janvier de cette année. La presse portugaise et les partis de gauche ont accusé les immigrants d'être d'extrême droite. Et ceci malgré le fait que sur 1,777,000 inscrits ont voté seulement 73,000 électeurs. Eh bien, les Portugais de France ont été particulièrement stigmatisés par ces critiques. Alors, ont voté 2,71% des inscrits en France. Et pour l'extrême droite, le vote a été à peine de 1,70% de ces votes. Bon, enfin, l'historien Vitor Pereira, lui, réfute totalement ces accusations, mais le mieux, c'est de l'écouter.
Oui, parce que, alors, il y a un élément qui est peut-être important dans ma réaction, c'est que je vis au Portugal en ce moment. Et j'ai vu donc les réactions, surtout à la télévision portugaise ou dans la presse portugaise ou dans les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux sont transnationaux, mais notamment des réactions de personnes portugaises. Et il y avait deux types de réactions, c'est-à-dire notamment l'extrême droite et le propre André Ventura, le candidat d'extrême droite aux élections, qui même pendant le débat de l'entre-deux-tours a dit qu'il avait gagné parmi les émigrés, et donc un discours de la victoire d'André Ventura parmi les émigrés. Et d'autres personnes qui stigmatisaient les Portugais en disant « Mais comment est-ce possible que des personnes qui sont eux-mêmes émigrées, qui ont quitté leur pays le plus souvent pour avoir une meilleure vie, pour eux, pour leurs enfants, pour avoir de meilleurs salaires, peuvent-ils voter pour un parti qui, lui, voudrait empêcher l'arrivée d'étrangers au Portugal ?» Et en créant une sorte de séparation entre nous, les Portugais, notamment les Portugais à l'étranger, et eux, les étrangers qui viennent au Portugal depuis plusieurs années, voire décennies. Et en fait, moi, ce discours m'a beaucoup gêné, parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres, ce qui est le plus important, c'est pas vraiment le résultat de l'extrême droite, c'est le résultat ou plutôt le volume de l'abstention. 96% des Portugais à l'étranger, et je parle seulement de ceux qui sont inscrits, parce que parmi eux, il y a des personnes qui ne sont pas inscrites pour différentes raisons, notamment parce qu'ils n'ont pas une carte d'identité portugaise en cours de validité, où ils n'ont pas renouvelé leur papier pour différentes raisons. Et donc, 96% des personnes inscrites n'ont pas voté. Et si on regarde le chiffre global du vote pour André Ventura, c'est 29 000 électeurs. 29 000 électeurs qui sont censés représenter 1,7 million d'inscrits, voire on dit souvent qu'il y a 2 millions environ de Portugais à l'étranger. Donc, ce discours qui est de dire les Portugais ont massivement voter pour André Ventura est un hold-up politique de la part de l'extrême droite. Et on peut seulement comprendre une partie des gens qui ne sont pas d'extrême droite avec ce discours que l'on connaît, qui a toujours été présenté les Portugais à l'étranger comme des gens qui manquent de goût. Et on a critiqué au Portugal leurs grandes maisons, leurs voitures, leur goût culturel, leur goût notamment pour la muscapim, etc. Et là, ce discours, il a pu s'imposer avec si peu de résistance parce qu'il est tellement ancré au Portugal que les émigrés sont des personnes qui n'ont pas de bon goût culturel et là, de bon goût politique, que ce discours a pu, il y a peu de deux ans, qui remettre un peu les horloges en disant il n'y a que 29 000 personnes qui ont voté pour André Ventura, et pour la France, c'est 11 000 personnes.
Ben oui, justement, si vous me permettez, en France, hein, votant 2,71%, votant 11,607, inscrits 428,936.
Donc, si vous avez les calculs, 1,60%, c'est-à-dire que 1,60% des personnes inscrites en France ont voté pour André Ventura. Ça veut dire que 98% des gens portugais inscrits n'ont pas voté pour André Ventura. Et donc, quand vous voyez dans la presse, dans les commentaires, ou le propre André Ventura dire qu'il a gagné avec 1,60%, ça me paraît vraiment un hold-up politique ou vraiment un aveuglement collectif.
Vital Pereira, avançons un petit peu parce que vous parlez même de mépris. Mais plus que ça, les Portugais en France, finalement, il faut dire qu'ils vivent une situation bien particulière parce qu'ils sont soumis depuis 20 ans à un discours d'extrême droite française aussi.
Ah, tout à fait. Alors ensuite, je dis ça. D'une part, il y a un fait important, et ce qui est vrai, mais je pense qu'il faut les hiérarchiser. On ne peut pas non plus nier le résultat. C'est-à-dire que André Ventura est le candidat qui était le plus voté. Alors, après, ce qui est fort probable, c'est souvent les gens qui font l'effort d'aller voter. Et là, il faut évidemment rappeler une évidence. C'est que les Portugais au Portugal, pour aller voter, sortent de chez eux et doivent faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres pour aller à l'école ou d'une autre institution qui accueille des bureaux de vote. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller voter. Et néanmoins, il y a quand même 40% d'abstention au Portugal, alors que c'est des élections qui ont quand même connu une participation assez importante. Pour des Portugais à l'étranger, même si vous habitez à Villiers-sur-Marne, vous habitez à Champigny-sur-Marne, vous habitez à Sarcelles, vous habitez à Sébaza, près de Clermont-Ferrand, il faut prendre votre voiture, il faut prendre les transports collectifs, il faut passer plusieurs minutes, voire peut-être plusieurs heures dans un transport collectif dans votre voiture pour aller voter. C'est plus long, plus compliqué, plus difficile, etc. etc. Il y a peut-être autre chose à faire de votre dimanche. Mais, et donc, dans ce cadre-là, ce sont les gens les plus motivés, les plus radicaux, ceux dont on peut aussi penser que le parti Chég les a incités à aller voter, parce que, de fait, vous faites un hold-up politique avec seulement quelques milliers de personnes. Et souvent, on voit bien que ce sont les gens qui votent à l'extrême, et notamment à l'extrême droite, sont plus mobilisés pour sortir de chez eux, pour, et notamment, alors peut-être que ça sera qu'après, pour aller sur les réseaux sociaux faire des commentaires, des obligeants, ou auréolant André Ventura de coups de vertu. Et donc, effectivement, il y a cette difficulté d'aller voter. Il y a plein de raisons pour lesquelles ce taux d'abstention est aussi élevé, 96%. Les difficultés d'aller voter, la connaissance ou pas de la classe politique portugaise. Parfois, pour certains, je pense, une légitimité. Quelle est notre place, nous, en tant que Portugais, qui vivent parfois depuis plusieurs décennies au Portugal, de voter ou de ne pas voter. En France, la population portugaise, notamment les plus âgés, sont des gens qui n'avaient jamais voté au Portugal et qui n'ont pas cette pratique de la démocratie. Et donc, il y a plein de raisons pour ça. Et donc, il ne faut pas, de fait, retirer ce fait que André Ventura arrive en tête. Mais, encore une fois, il faut bien le remettre dans un contexte d'abstention massive.
Il y a un contexte aussi, c'est que les immigrés ont toujours été abandonnés, si je peux utiliser le terme. Bon, c'est un petit peu excessif, mais enfin. Mais on a un dernier exemple en date, c'est quand il y a eu les grands incendies, là, cet été, au Portugal, justement, il y a un ministre qui a dit, c'est hors de question, que les maisons des Portugais immigrés qui ont brûlé, qu'on les rembourse, parce que c'est leur deuxième maison. Donc, il y a aussi un certain nombre de motifs qui font que, justement, un certain nombre de personnes disent, bon, il y en a ras-le-bol des partis qui sont succédés au gouvernement, bon, essayons autre chose aussi.
Oui, il y a ce discours qui... Alors, la prison des questions, vous le disiez aussi, c'est-à-dire qu'en France, notamment en Suisse, au Luxembourg, la population portugaise est soumise à ce discours de plus en plus prégnant, de plus en plus fort dans l'espace public, et notamment à la télévision, notamment en France, CNews, Europe 1, etc., qui est un discours d'extrême droite qui instrumentalise la population portugaise en la présentant comme la bonne population immigrée qui permet de critiquer, de stigmatiser d'autres immigrations, qui donne le bon rôle à l'immigration portugaise pour mieux stigmatiser les autres. Et une partie de nos compatriotes peuvent être sensibles à ce discours. Mais ce que vous dites là, effectivement, est important. C'est-à-dire que beaucoup de Portugais en France se sentent, entre guillemets, abandonnés ou dont l'idée que l'État portugais, en fait, l'État portugais et les gouvernements portugais, ils ont un discours excessif. C'est-à-dire que souvent, on présente les Portugais en France comme les nouveaux Vasco de Gama. On adore répéter au Portugal, alors que le chiffre n'est sûrement pas vrai, qu'il y a 5 millions de Portugais à l'étranger et 10 millions de Portugais au Portugal. L'immigration portugaise sert à dire aux hommes politiques que nous ne sommes pas un petit pays. Mais au contraire, nous sommes partout dans le monde. Et avec, notamment il n'y a pas longtemps, le premier ministre portugais a dit que tous les Portugais devraient des Cristiano Ronaldo avoir son engagement, son efficacité, etc. Et donc souvent il y a un discours extrêmement laudateur vis-à-vis des Portugais à l'étranger et notamment en France. Mais après, dans les faits concrets, beaucoup de parents se plaignent qu'ils ne peuvent pas transmettre la langue portugaise, du moins dans un cadre scolaire. Tant des, il y a des choses, évidemment. Il y a notamment l'Institut Camões qui donne et qui dispense des cours de langue, mais qui ne sont pas suffisants. Il y a au Portugal, ces dernières années, un tournant numérique très affirmé. Et notamment, tout se fait sur des sites Internet. Et une partie de la population en France qui maîtrise moins bien ces outils peuvent se sentir abandonnés, un peu perdus, comment faire pour payer les nuits, pour faire des choses. Alors, il y a un peu un pays à deux vitesses au Portugal, avec une population qui maîtrise les outils numériques et une partie souvent plus âgée qui ne maîtrise pas. Et ce que vous venez de donner, l'exemple qui vient d'être donné, où un ministre, au moment des incendies, disait qu'il envisageait de ne pas rembourser les biens, les maisons des Portugais à l'étranger. Il y a un discours qui est « Mais les Portugais, pourquoi votent-ils ? Ils payent pas d'impôts. » Tous ceux qui possèdent des biens au Portugal possèdent des impôts. Et pendant des décennies, les deux décennies, les banques portugaises ont incité les Portugais à envoyer leurs économies au Portugal pour après leur dire « Ah, mais en fait, vous payez pas d'impôts, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien des citoyens comme nous. » Et en plus, avec un manque de logique qui est que « Ah, si donc il faut payer des impôts pour voter, pourquoi les immigrés, donc les étrangers qui vivent au Portugal, ne pourraient pas voter dans ce cas-là » Donc effectivement, il y a un discours, un sentiment d'abandon. Là, on va peut-être voir avec, hélas, la tempête Christine qui a provoqué de grands dégâts dans la région de Lille, qui est une grande région d'immigration vers la France. Il y a peut-être des familles d'immigrés qui ont été touchées, qui ont vu certains de leurs biens détériorés. La solidarité nationale ne va pas encore oublier, ou ne va pas avoir le discours omettant les biens que possèdent les Portugais au Portugal.
Alors, Victor Pereira, à la fin de votre texte publié, je rappelle, sur les réseaux sociaux, je cite, hein, « Et que la gauche, au lieu de se moquer, ferait mieux de se demander pourquoi 96% des Portugais à l'étranger ne votent pas, ainsi que 38,5% des inscrits qui vivent au Portugal. Elle est là, la question, et la réponse n'est pas simple. »
Oui, parce que en fait, il y a eu beaucoup de... qui est très intéressant et très qui interroge, c'est que en France, quand on a vécu en France, l'extrême droite, pas au pouvoir, mais qui a des scores de plus en plus importants, et actuellement à plus de 100 députés, l'ascension de l'extrême droite au Portugal, le Front National a été en 72, commence ses premières percées électorales en 82, et arrive au deuxième tour en 2002, puis de nouveau en 2017, en 2022. C'est une longue croissance du Front National, Rassemblement National en France. Au Portugal, le parti seul, fondé par André Ventura, a été créé en 2019 à un député. En 2019, avec seulement 60 000 électeurs, et 6 ans plus tard, à 60 députés, plus d'un million d'électeurs. Donc c'est une croissance extrêmement rapide. Et évidemment, au Portugal, une partie... des observateurs, des commentateurs, etc., sont un peu démunis pour comprendre cette croissance exponentielle de l'extrême droite. Et il y a un très mauvais réflexe qui est de considérer que les électeurs sont des électeurs idiots, qui ne comprennent pas la politique, qui sont ignorants. Et en l'occurrence, pour les Portugais en France, c'est des gens qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon premier argument, ont été peu scolarisés, sont ignorants des choses et votent pour l'extrême droite. Ce qui évidemment bien trop court et qui ne permet pas de comprendre cette ascension et les raisons de ce vote. Et c'est vrai que je dis, il faut comprendre cette augmentation, il faut aussi comprendre cette abstention. Il faut comprendre cette abstention qui est extrêmement importante. Pourquoi les gens votent pas, les gens votent peu? Est-ce qu'ils voteraient plus si il y avait un vote électronique? Et moi, ce qui me semble important à voir, c'est que ce vote chez a l'air de surprendre tout le monde, mais pendant plusieurs années, le système politique portugais vivait très bien avec 40-50%, voire un peu plus, parfois, d'abstention. On ne peut pas dire qu'on est passé d'une période où la démocratie fonctionnait extrêmement bien en Portugal, où les gens étaient extrêmement heureux avec les deux principaux partis du gouvernement qui sont le PS et le PSD, et que d'un coup, l'extrême droite est apparue. En fait, ce qui semble, et que d'un coup, le racisme est apparu. Pendant longtemps, au Portugal, on a nié le racisme qui a existé notamment pendant la période coloniale, jusqu'en 1475, et qui a persisté après l'indépendance des colonies. Et d'un coup, on a pensé que le racisme et les idées d'extrême droite d'un coup apparaissaient. En fait, ce qui semble plutôt, c'est qu'elles étaient déjà présentes, et que par un ensemble de raisons, mais l'une d'elles, c'est qu'elles sont incarnées autour d'André Ventura et Che, qui a su capter une partie de l'électorat qui, jusqu'alors, ne votait pas, ou votait pour d'autres pays, et a su mobiliser une partie de ce Portugal qui a toujours existé. Et donc, c'est notamment ce que je dis, c'est que comprendre cette abstention, et si 100% des Portugais en France votaient, ou bien plus, je ne suis pas sûr que le vote pour l'extrême droite serait peu élevé, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Et donc, effectivement, c'est ça, citoyen, homme politique ou chercheur en sciences sociales, une de nos questions, c'est de comprendre cette abstention et de comprendre aussi ce vote pour l'extrême droite sans tomber dans un jugement moral qui souvent ne nous permet pas de comprendre les choses et parfois de les corriger quand on pense qu'il serait mieux de les corriger.
Victor Pereira, je vous remercie. Bon, et maintenant, on attend le deuxième tour. Hein. Le vote, c'est le 7 et 8. Donc, bon, si vous voulez bien, on fera le point la semaine d'après, justement, par rapport à ce résultat de la deuxième tour. Victor Pereira, obrigado, muito obrigado.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
E foi o historiador Vítor Pereira e para terminar esta primeira hora da passagem nível, Catherine de Ribeiro, Balada das Águas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível neste domingo, dia 1 de fevereiro. E começamos por falar de uma carta aberta, Mulheres Portuguesas da Diáspora em França. Mónica Cunha, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, Arthur, e a todo o auditório da Rádio Alfa.
Ora, Mónica Cunha é uma das signatárias, uma das 182 assinaturas, precisamente nesta carta aberta. Antes de falarmos daquilo que está nesta carta, quais foram as suas motivações ao assinar uma carta destas que eu disse que é uma carta aberta pela defesa da democracia e da liberdade em Portugal? Quais foram as motivações da Mónica Cunha?
Eu penso que as minhas motivações foram partilhadas por estas outras 182 mulheres que assinaram e muitas outras que não conseguiram, que não foram a tempo de fazê-lo porque tentámos agir com alguma rapidez e, portanto, foi um movimento espontâneo que se gerou em menos de 48 horas em que tentámos contactar, em que se gerou uma rede de contactos e conseguimos enviar estas assinaturas, mas acho que a motivação é comum, portanto não tenciono falar a nível individual, mas as preocupações são as mesmas.
Mónica Cunha?
Isto partiu de uma certa indignação, uma certa revolta até conjunta pelo facto de vermos constantemente mentiras ou, enfim, inverdades, como gostamos de lhes chamar ultimamente, de mentiras que são partilhadas nas redes sociais, que acabam por se propagar nos grupos até familiares e de amigos, em que percebemos que há muita desinformação porque vivemos numa sociedade em que consumimos muita informação que vem já através das redes sociais e não de fontes credíveis, e portanto isso acabou por estes resultados da primeira volta, em que se, tal como dizia muito bem, a interessantíssima a intervenção do Dr. Vítor Pereira, que explicou de uma forma muito simples e muito clara esta questão, é que nós também somos, também pertencemos a esta diáspora, umas nascidas em Portugal, outras nascidas cá, são no fundo 182 mulheres com perfis muito diferentes e de várias gerações, porque temos mulheres que assinaram a partir dos 20 anos até aos 90, portanto, como podem perceber, é de facto muito representativo, e quisemos mostrar essa indignação perante estes valores humanistas que estão constantemente a ser feridos. E nós também fazemos parte dessa diáspora, não nos queremos incluir nesse painel, nesse quadro negro que foi pintado após esta primeira volta das eleições, de que todos os imigrantes ou que todos os portugueses no estrangeiro pensam dessa forma e têm um discurso de exclusão e de ódio com o qual nenhuma de nós se identificou, e nós fomos apenas a ponta de um iceberg. Porque estou certa de que muitas outras e a grande, a esmagadora maioria das mulheres da diáspora têm valores que pretendem defender e que são valores positivos, de união, de forças, que foi o que aconteceu, não é? Portanto, somos capazes de o fazer a uma mais larga escala, é essa a minha convicção. Portanto, enquanto mulheres imigrantes...
Sim.
Enquanto mulheres, e falo em nome próprio, mas de todas nós, enquanto mulheres, enquanto imigrantes, queremos ter voz, porque ainda a temos, não é? Porque ainda vivemos em democracia, espero que assim continue por muito tempo, pelo nosso presente, mas também pelo futuro, aliás, o nosso e o das gerações que virão.
Ora, as mais diversas profissões, a Mónica Cunha já focou igualmente a nível das idades, médicas, professoras, advogadas, empresárias, artistas, investigadoras, agentes de manutenção, trabalhadores de serviços, porteiras, escritoras, dirigentes associativos, estudantes, cuidadoras, reformadas e mulheres eleitas, há vereadoras, há deputadas e outras posições representativas. Finalmente, este leque é bastante importante, já focou a base etária, não é? De maneira que, quer dizer, é um significado no meio disto tudo, é porque vocês também, bom, falam porque são mulheres, é para ver normal, porque a própria condição da mulher, finalmente, em filigrama, aparece nos debates e nos votos, intenções de voto, não nos e dos outros, quer dizer, a própria condição da mulher, que o controle da mulher é da pessoa, não é? O ser humano, porque dizem os homens para falar da humanidade, mas seres humanos, vocês levantam essa questão também, porque às vezes parece que é subalterna relativamente ao resto, não?
Absolutamente, absolutamente. E para nós foi muito importante também mobilizarmos os nossos contactos em todas as direções, porque o objetivo não era criar um grupo elitista em que havia apenas mulheres com grande formação académica. Não é de todo esse o objetivo, porque não queremos mais uma vez contribuir à falsa ideia de que os imigrantes são pessoas que não têm capacidade de analisar as situações da sociedade atual e a situação política, e portanto isso não é verdade, e reunimos então várias gerações, mas também com vários percursos diferentes. Portanto, nós quisemos no fundo com esta carta, que é simbólica, que eventualmente poderá dar origem a outro tipo de ações ou não, portanto isso ainda não está decidido, mas o objetivo principal era demonstrar que mulheres com todos os perfis possíveis e de todas as idades também, se juntaram, grande maioria delas não se conhecendo, para impedir este apelo ao ódio, que no fundo nós quisemos mostrar que há uma contracorrente, portanto, que as pessoas não achem que todos estamos nessa direção, porque isso não é verdade, é um número ínfimo, como referiu o Dr. Vítor Pereira, e é isso que precisamos de salientar, que a maioria dos portugueses no estrangeiro são pessoas razoáveis, são pessoas que não pretendem incitar ódios, nem contra minorias, e tal como referiste, Arthur, nem contra as mulheres, porque começamos a perceber que os direitos das mulheres que têm vindo a ser conseguidos ao longo das últimas décadas começam a ser postos muito em causa e em grande medida até por mulheres que fazem parte desses movimentos e que acabam por ser instrumentalizadas, e portanto não, nós temos voz, todas nós temos voz, independentemente dos nossos percursos, das nossas idades, e queremos apelar precisamente a essa contracorrente do ódio. Não é esse o caminho, portanto não é nisso que acreditamos.
Mónica Cunha, estamos a terminar. Eu vou citar uma das frases da Carta Aberta: defendemos uma democracia viva que proteja quem trabalha, quem cuida e quem constrói pontes entre países e culturas. E vocês terminam por, vocês apoiam, continuo a citar a Carta Aberta, o candidato democrático António José Seguro. Rapidamente, portanto, vocês fazem uma constatação e tomam uma decisão, tomam uma posição, rapidamente.
Então, relativamente à posição política, eu quero salientar o facto de a grande maioria destas mulheres que assinaram a carta não estarem ligadas a nenhum partido em concreto. Portanto, é óbvio que neste panorama político que se apresenta, que não há outra escolha. Há umas que o apoiam abertamente, outras que o apoiam por oposição ao candidato Ventura, como é lógico. Eu queria só terminar dizendo que um dos outros pontos importantes que nos moveu também foi o de chamar a atenção para a importância de poder abrir esta democracia a todos e dar, porque quem vota conta, não é? E neste caso, quem pode votar contra. Portanto, há muitas pessoas que não puderam votar e não puderam ter voz, precisamente porque não se puderam deslocar e fazer, em alguns casos, 300 e 400 quilómetros para poder ir votar. Portanto, é muito importante que as autoridades portuguesas pensem nos imigrantes que precisam de votar para que a democracia permaneça acessível a todos.
Mónica Cunha, muito obrigado. Relembro, a segunda volta é no dia 8, no que diz respeito às comunidades portuguesas. Voto dia 7 e dia 8. O voto é presencial. António José Martins Seguro e André, claro, Amaral Ventura abrigam o sufrágio dos eleitores. Muito obrigado, Mónica Cunha.
Obrigada, bom domingo a todos.
Muito bom dia. E agora, bom, vamos mudar completamente a assunto, ainda que, evidentemente, continuamos numa... E vamos falar um tema que é muito sensível, e, ao que parece, não sabem, ficam a saber agora, que o português em França tornou-se uma língua rara. Bom, vamos compreender alguma coisa. Professora Piedade Favero, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, eu que agradeço o vosso convite, bastante importante
para a secção. Mas, todos os anos... Todos os anos eu tive a sorte de estar no lançamento desta secção em Paris 17, Collège de Liceu, no Rio de Balzac. Ora, antes de falarmos ainda alguns instantes, vamos ter precisamente a Sofia Gomes, que é vice-presidente da Associação des Parents da Secção Internacional Portuguesa de Balzac. Mas, Sra. Favero, cara professora, bom, chegou há muito pouco tempo a Lisboa com uma visita que fez com alunos, não foi?
Exato, cheguei na sexta-feira à noite, por isso estivemos de terça até sexta, apanhamos o temporal, porque estivemos na zona do ciclone, mas correu tudo mais ou menos bem, com algumas atividades que tiveram que ser desprogramadas e encontrar outras atividades devido ao que vocês sabem, não é, ao temporal e aos estragos, aos danos, aos imensos danos que esse temporal causou na zona de Leiria. Sim, sim, mas correu tudo muito bem, os alunos gostaram em todo caso. É sempre para eles um momento especial, diferente, de convívio, de conhecimentos que são feitos fora da sala de aula, e isso é importante para eles.
Ora, tudo isto não se fazia, evidentemente, sem o apoio dos pais, porque há despesas também a fazer, porque, infelizmente, ou que dizem que a educação nacional é pobre, bom, mas enfim, não é o debate agora precisamente disso. Sofia Gomes, muito boa tarde, obrigado, está em direto connosco também.
Boa tarde.
Boa tarde. Ora, Sofia Gomes, falamos desta viagem da professora Favero com um certo número de alunos a Lisboa, de maneira que para vocês, pais, vocês acompanham quando são organizadas viagens dessas, como é que, porque é importantíssima a participação dos pais, caso contrário, as professoras e mesmo a vontade dos alunos não vão longe.
Sim, nós acompanhamos, claro, mas financeiramente, só os professores é que vão com os alunos de viagem e nós temos então a nossa participação financeira a dar. E quando não chega, a princípio às vezes pode participar um pouco, não sempre, mas pode participar também em pagamentos de museus ou outras coisas.
Ora, jornada Portas Abertas, jornada, eu deveria dizer meia jornada com efeito, sábado, dia 7 de fevereiro, entre as 8 e as 12 horas. Senhora professora, precisamente estas jornadas são importantes porque é aí que pode haver, finalmente, os pais de alunos que pensam que as suas crianças podem integrar, bom, o colégio sixième, de 6ª a 3ª e no liceu de 2ª a terminal. Bom, há que o especificar, de maneira que é uma boa altura para contactar o pessoal docente, os pais dos alunos que já lá estão, mas igualmente para conhecerem os locais e o ambiente, não é?
Sem dúvida. Por isso estas portas abertas destinam-se àqueles que ainda não conhecem Balzac ou que têm receio de colocar um dos seus filhos em Balzac, porque fica na periferia, não é? Paris 17, mas às portas da Porte de Clichy.
Porte de Clichy, há todo o tipo de transportes para chegar aí. E fica a dois passos da entrada do Balzac.
Exato. A nível de transporte está muito bem situado, não é? A acessibilidade é rápida, porque temos o RORC, para os que vêm do exterior, mesmo do interior, não é? Extramuros, o metro 13, o metro 14, que é bastante rápido e acessível. Temos o tramway, por isso o elétrico 3B, autocarros, é perto, mesmo ao lado do tribunal, não é? Do Teatro Odeon. Por isso, a nível da centralidade deste edifício, deste estabelecimento escolar, penso que os pais não têm problemas de acesso. E depois também podem fazer algo que eu recomendo com frequência, que é o quando têm vizinhos ou outros colegas, eles podem vir todos agrupados em conjunto, não é? Quando os pais têm a receio de deixar um aluno de sisento, que ainda é pequeno ruxo, nos transportes, se vierem em grupo, eles não terão problemas. Por isso, é uma linha, são linhas muito rápidas e que ficam mesmo ao lado do estabelecimento de ensino. O estabelecimento de ensino é enorme, não é? Como já, não sei se alguns pais tiveram a oportunidade de constatar, no entanto, porque às vezes assusta o edifício, o que eu quero deixar bem claro é que os alunos não se misturam, não é? Isto é, os alunos do colégio não se misturam com os alunos do liceu, por isso tem, o edifício está dividido em dois grandes prédios, e como tal, os alunos do colégio ficam entre eles, os do liceu ficam entre eles também. E é um edifício que tem vantagens na medida em que tem o desporto incluído dentro do edifício, não é? Estou a falar para os alunos que praticam desporto, e nomeadamente tem a chave, que é uma classe, uma turma que é só para desportistas de alto nível. Não sei se há pais que me estejam a ouvir, que os filhos pratiquem desporto já com a intenção de serem profissionais ou semiprofissionais, por isso integrados nesta turma, que também podem integrar a turma de secção internacional. Os alunos têm horários, não é? Horários mais cómodos para poderem praticar as suas atividades desportivas. E depois têm outras opções, nomeadamente as audiovisuais, o cinema, matemática, matemáticas aplicadas, informática, ciências políticas, já estou a falar do liceu, claro, que podem ser interessantes, porque isso a nível de opções do liceu é um dos estabelecimentos que propõe mais opções ao aluno, não é? O que é uma vantagem também.
Com efeito. Mas eu estou sempre colocado ao outro lado do periférico, não é? Os pais que vivem lá, que têm crianças em idade escolar, as associações igualmente, este arrecado já estou a dar há anos e anos e anos, ainda não desisti de ser ouvido um dia destes, como deve ser. Mas enfim, deixa-me isso de lado agora, é outro debate, mas debates já organizados não faltam. Sofia Gomes, precisamente, tem filhos no Balzac. Que recomendações, ou o que é que poderia dizer aos pais que estão a pensar eventualmente de inscrever os filhos, as crianças aí no colégio ou no liceu, de dizer, bom, venham até ao Balzac, que trunfos é que, como mãe, precisamente de um aluno ou de uma aluna, pode dar a esses futuros pais de crianças do Balzac?
Sim, eu tenho um filho agora em Saint-Quiem. Eu quero dizer é que é muito valorizador para os alunos. É um ensino que até o Artur Silva gosta de dizer, é gratuito, é de excelência, e é isso que uma pessoa tem que dizer outra vez, é um ensino de excelência, sólido, exigente e gratuito.
E é público, muito, e é público.
E é público. É uma verdadeira mais-valia para o futuro dos nossos filhos, porque aprendem a cultura, a nossa cultura, aprendem a literatura e a história e a geografia ao mesmo tempo do curso normal de francês. E o que eu quero dizer aos pais, porque o ano passado na Jornada das Portas Abertas muitos pais me diziam, ai, são mais horas, são 6 horas a mais, é muito trabalho. Olha, não é muito trabalho. Eu o que gosto de dizer é que serão sempre 6 horas a menos em frente aos ecrãs e em frente às redes sociais, isso tudo. São 6 horas a mais de trabalho, são 6 horas a mais para aprender, mas isso, os alunos, é tudo, está tudo integrado e eles nem sentem que é um ensino a mais, que são horas a mais a fazerem. Por isso, os pais que não tinham receio de porem os alunos neste colégio, neste liceu, é um colégio, um estabelecimento que é fantástico, tem uns complexos esportivos fantásticos, tem muitas, como diz a professora Faveiro, tem muitas opções, tem muitas atividades, e temos o metro, temos os transportes todos ao lado. Nós temos alunos que vêm de Argenteuil, que vêm de Setan, que vêm de Saint-Ouen, que vem de Pantin, portanto não pense que é só para os alunos de Paris, também é para todos.
Ora, as inscrições, bom, para já relembro, portas abertas, vai ser sábado entre as 8, este sábado, dia 7 de fevereiro, entre as 8 e as 12. As inscrições decorrem até o dia 10 de março. Professora Favera, precisamente, bom, pode haver pais dizer, pois, mas o meu aluno não tem um nível suficiente de português, o que é que lhes pode dar como explicações a esses pais?
Assim, em primeiro lugar, eu tenho a agradecer as palavras da senhora Sofia, porque subscrevo completamente o que ela disse, não é? Efetivamente, esta carga horária que pode ser, quando se ouve o número de 6, 7 horas, normalmente tem 5 horas em língua e literatura no colégio, mais 2 acrescidas em história, por isso são 7 horas de trabalho em português. E no liceu são 4 horas para literatura, 2 para português, língua portuguesa, e 1 para uma disciplina nova que se chama Conexões do Mundo. Mas isto para dizer o quê? Que efetivamente o facto dos alunos estarem nos ecrãs, esse tempo que eles passam de outra forma, durante a semana eles praticamente não sentem, porque é mais uma hora e meia, 2 horas no horário deles, que têm português, não é? Português, as aulas de português vão ser distribuídas pelos 5 dias da semana, e eles, quando vêm para Balzac, em geral gostam imenso de estarem. Assim, venham ver este sábado, dia 7, as instalações, vão ver que haverá alunos que mostrarão as instalações, nomeadamente desportivas, que os alunos gostam. Falar com a equipa do centro, que eu penso que é importante, e nomeadamente para esclarecerem estes preconceitos e a priori de que o ensino de uma secção é muito exigente. Não. Um aluno que entra em CISIAM, basta saber falar em português, ter algumas noções de escrita, eles estarão na secção internacional, colégio e liceu, para aprenderem a melhorarem os conhecimentos que têm. Por isso, não é um ensino muito difícil. Agora, quando chegam ao liceu, o que nós pretendemos é que eles se preparem, e é uma mais-valia para eles, se preparem através dos métodos de estudo, metodologias próprias, para a vida universitária, não é? E para integrarem as universidades, quer fiquem em França, quer vão para Portugal ou para outras universidades. Como sabem, o estudo é um estudo mais autónomo, mais exigente, e nós temos esta preparação. Qualquer secção internacional prepara o aluno para que tenha boas notas, não é? E saiba integrar depois este ensino de excelência, que é também as universidades, as faculdades. E, obviamente, com o ensino da língua portuguesa, prepara-os para isso. Não, o ensino de uma secção efetivamente é exigente, porque temos que atingir um determinado patamar, seja qual for a secção, não é? Que são os exames de secção internacional, chamados exames BFI, Bac Français International, e este internacional dá um prestígio aos alunos quando adquirem os diplomas deles de final de ciclo, quer seja no nono ano, isto é, em troisième, o brevet internacional, quer seja depois o diploma de ciclo de estudos a nível secundário. E é uma mais-valia, mas não seja a nível de prestígio pessoal, aprenderam, não é, a língua, dominam-na, sabem utilizá-la a nível oral e escrito, num bom domínio de língua, isso é importante para um currículo também, e podem depois aproveitá-la para os currículos mais tarde de faculdade, dos percursos que o aluno fizer. A nível, como dizia a senhora Sofia, a nível cultural, a nível linguístico, é uma bagagem, mas não seja, para além de universitária, escolar, universitária, profissional, é sempre uma mais-valia pessoal. Quanto aos alunos, às inscrições, claro que uma secção está aberta a qualquer tipo de aluno. A secção portuguesa é gratuita, como foi bem frisado pela senhora Sofia, e está aberto a alunos lusófonos, quer sejam portugueses, de origem brasileira, cabo-verdianos, angolanos, guineenses, por isso moçambicanos, franceses e outras nacionalidades. Particularmente que dominam um pouquinho a língua portuguesa. Estão na secção para melhorarem esse domínio, para chegarem ao final do percurso com um bom e excelente domínio da língua portuguesa. Quando eu digo bom domínio, não é só falar, fazer-se compreender, é saber utilizar, não é, as palavras e a sintaxe relativamente ao interlocutor a nível oral e escrito. É esse o nosso objetivo. Ora, não sei se fico clara.
Sim, perfeitamente, professora Favela. Aliás, bom, já foi dito e redito, está tudo um ensino público e gratuito. Pois bem, não há história da carta, não existe sector da residência obrigatória, longe disso, não. E as inscrições são feitas. Ora, agora, quer dizer, tem que se passar pela academia, mais concretamente, bom, o melhor é ir ao site de Balzac e ter os detalhes, né? Porque isto agora passa pelo rectorado, pela Academia de Paris, assim é que é, de maneira que, bom, passa tudo para se inscrever. Uma última referência, bom, talvez vou pedir à Sofia Gomes que me fale nisso, é a propósito de um prémio ganho pela jovem Madalena Lopes Morgado, que estuda, ela está em classe de segunda, em Balzac, e que foi vencedora do prémio Leia dos Jovens Luso-Descendentes na categoria Sim. juvenil. Ora, parabéns para ela e dou parabéns a ela através de si, Sofia Gomes.
Sim, parabéns temos muito orgulho em que seja uma aluna de Balzac tinha ganho este prémio e ganho o poema dela, não sei se está disponível, mas o poema dela é fantástico e muito, muito bonito, e acho que era normal que tinha vencido este prémio.
Professora Faver?
Sim.
Sim, eu penso que, bom, isso também, quer dizer, aí vê-se o trabalho dos professores, não?
O nosso objetivo é sempre prepará-los para este tipo de concursos, isto é, que não seja um ensino simplesmente escolástico, em que o aluno fica simplesmente dentro da sala de aula, mas o que ele está a utilizar na sala de aula possa transpor essas portas. Daí que nós tentamos, entre aspas, claro, empurrar o aluno para programas literários, programas de política, concursos, não é? Temos concursos de eloquência, por exemplo, em Balzac, por isso fazê-los participar, sempre que possível, em concursos que os valorize, que os motive e, sobretudo, que os prepare para a vida ativa, razão pela qual há estes concursos nos quais nós pedimos aos alunos, não é? Para poderem participar com a nossa ajuda, mas o mérito é deles. E como tal, penso que é um orgulho para eles próprios, obviamente para os professores, para a PESIPA, para a equipa pedagógica, mas sobretudo para eles próprios e para os pais, é uma mais-valia, não é? E daí que nós normalmente participamos em concursos, como eu disse, este de Moçambique, da Leia, também os contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que são feitos pela Leia e pela Porto Editora, e outros concursos que são lançados ao longo do ano letivo, quer seja pela coordenação do ensino, não é? Que nos envia sempre estas propostas de participação, como a ADEPTA, que também é bastante importante, e outros concursos, nomeadamente, não é? Por vezes a Rádio Miúdos e outros programas. Parlamento de Jovens já participamos. Este ano, infelizmente, não vamos participar por razões internas, mas o objetivo é, efetivamente, a partir de um trabalho pedagógico, não é? E de acordo com os níveis de proficiência, isto é, de conhecimento da língua dos alunos, tentá-los, motivá-los sempre para este tipo de atividades que são sempre mais valias para eles. As saídas escolares, como dia referiu há pouco, os museus, os teatros, palestras, as visitas e viagens escolares a Portugal normalmente, não é? Dar um pouquinho, e depois estes programas e concursos que são diversos, organizados, como eu disse, pela coordenação do ensino, pela ADEPA e outros por nós próprios, pela equipa pedagógica.
E este ano também pela APESIPA temos o concurso fotográfico também.
Precisamente,
são bastante ativos também.
Era por isso, era o meu agradecimento para já à professora Piedade Favero, igualmente à Sofia Gomes, porque aí a Associação de Pais tem um trabalho importantíssimo, não é? Para já, para acompanhar, os pais acompanharem os filhos ou as filhas em casa, que isto é bastante importante, e depois também apoiar e acompanhar a vida da própria secção internacional portuguesa. Muito obrigado, Sofia Gomes, obrigado igualmente a Piedade Favero. E relembro as jornadas Portas Abertas no próximo sábado, dia 7, entre as 8 e as 12 horas, Collège Lycée International Honoré de Balzac, 117. Boulevard Bessières, Paris 17, tem metro, tem autocarro, tem ROR, tem tramway, depois até podem ir a pé para aqueles que moram perto, mas enfim, bem hajam e até muito breve então.
Obrigada,
obrigado
a todos.
Muito obrigado. E, pois bem, agora vamos ao cinema, porque não?
Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui à espera tua. Que tivemos alguns problemas com o teu antecedor e...
Obrigado pelas informações todas e pela pressão também.
Quanto tu não fazes?
É assim, 40 mil.
Pega, pega, pega!
Por favor, guarda os sacos, guarda os sacos!
Ei, esse aqui é Sérgio.
Olha o jeito como ele está a tentar informar. A fingir que está tudo.
É um pouco até engraçado.
Quem comer primeiro
o alvo,
a comida, ganha.
Estás cá a trabalhar numa ONG ou numa construção?
Olha, se queres o conselho, tira-te. Isto não interessa a ninguém.
Então, tu estás em todo lado.
Eu estou a ficar farto de si, caralho!
Você é muito feliz.
Do you want to be here? Why are you here?
O riso e a faca. Pedro Pinho, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Obrigado, sou eu. Já há muito tempo não falamos. A última vez foi a propósito a Fábrica de Nada. Já lá vão uns anos nisto, precisamente. Ora, este filme, o riso e a faca, pela primeira vez em França, é a versão longa que vai ser projetada? É? Quantos minutos faz?
Exatamente, são 5 horas e 20, a versão integral do filme. Portanto, circulou até agora uma versão de sala, mais curta, e agora vamos poder finalmente ver o filme que eu estive a construir e a trabalhar ao longo destes 7, 8 anos.
O filme que foi rodado, passa a expressão, na Guiné-Bissau, é isso?
Foi rodado na Guiné-Bissau, 80% na Guiné-Bissau, mas também foi rodado na Mauritânia um bocadinho.
Sim, mas...
No deserto, as cenas de deserto, do estaleiro, portanto.
Mas relativamente à Mauritânia, falaremos no final a propósito de um filme documentário que é Bab Zebda Sebta. Bom, não garanto a pronúncia, mas relativamente a este filme, Pedro Pinho, O Riso e a Faca, podemos dizer assim, uma continuidade no seu trabalho que é extraordinária, porque, por um lado, a questão é humano, há a questão social, mas há uma questão também, quer dizer, que tem a ver com aquilo que se passa por esse mundo fora. Aliás, há uma frase, penso que é sua, precisamente relativamente ao seu trabalho, há uma obsessão de, quer dizer, a Europa enquanto que ideologia impõe-se ao resto do mundo, de maneira que tem a olhar, e aliás este filme, O Riso e a Faca, fala um bocadinho disso, poder talvez acrescentar algo?
Sim, bom, de facto eu confundo, tenho tendência a confundir muito a minha vida e o meu percurso de vida com o meu trabalho, não é? E é verdade que este filme, O Riso e a Faca, é uma consequência direta do processo que eu iniciei no filme Bab Zebda, foi o meu primeiro filme, o meu primeiro documentário, e em que viajei para Marrocos. Bab Zebda foi filmado em 4 cidades, 2 em Marrocos, 2 na Mauritânia, e pela primeira vez eu pude atravessar o deserto do Saara e chegar a esse outro lado e, portanto, conhecer aquela realidade e, sobretudo, aprender a ver o lugar de onde eu vinha, no caso Portugal, Europa, as condições de vida onde nasci, onde cresci, a partir de um olhar exterior. E o filme Bab Zebda é muito isso, é um processo de escuta de olhares exteriores que querem entrar na Europa. E acho que isso foi uma espécie de volte-face da minha vida e de processo de aprendizagem que foi muito impactante e que de alguma forma mudou a maneira de estar, a maneira de ver e a maneira de ser. E portanto... Assim, a posteriori, quase que consigo dizer que todos os meus filmes são sobre essa ideia de Europa, que é uma construção que se impõe, né? Uma construção muito antiga, que inclusivamente até podemos dizer que vem do Império Romano, assim, uma coisa da expansão do catolicismo como igreja de Estado e civilizacional e tudo isso, E que nós ainda absorvemos totalmente esse conjunto, esse pacote cultural, né? E a forma como ele nos forma, como ele não só nos forma a nós aqui dentro, mas também como tem condicionado a vida do mundo inteiro, ou seja, inclusivamente populações que estão longe e que não pediram nunca para ser visitadas, entrar pelos europeus.
Claro. Uma boa expressão essa. Pedro Pinha, aliás, é uma coisa boa. Estamos a falar de assuntos sérios, mas no seu filme há humor. Há uma coisa extraordinária, é que se consegue, em situações dramáticas, quer dizer, consegue encontrar qualquer coisa e dizer, bom, espera aí, mas a vida continua. Mas a propósito do filme, bom, queria voltar alguns mesinhos atrás, é que a Cleo Diarra, aqui é Diarra, obteve o prémio de melhor interpretação na categoria, na secção Acerta en Regard do Festival de Cannes 2025, de maneira que, bom, tanto, quer dizer, há referências no coisa, e este prémio, vendo o contexto daquilo que se passa a nível mundial e não sei o quê, o facto da Cleo Diarra ter obtido este prémio, quer dizer, é algo que bom, eu considero que é um símbolo, não sei o que é que o Pedro Pinho pensa.
Sim, eu acho que esse prémio nós temos que perceber, nós sobretudo aqui em Portugal, temos que perceber que é simplesmente o prémio mais importante que uma atriz portuguesa já ganhou, não é? No Festival de Cannes, e eu acho que deve ser celebrado dessa forma. E também como símbolo, tal como a Cleo Diarra tão bem o disse no dia da apresentação e em todas as entrevistas que fez depois, é um símbolo daquilo que Portugal podia ser, mas ainda não é. É um símbolo de uma junção de forças, de pessoas com muitas origens, com muitos backgrounds culturais, com muitas coisas novas para trazer, que podia melhorar este lugar onde nós vivemos, que podia fazê-lo crescer, que podia transformá-lo numa coisa muito importante e bonita, mas que infelizmente nos últimos tempos parece que se está a tentar regredir para um lugar assim lá muito perto das cavernas, e portanto é uma coisa que a nós nos surpreende e nos faz pensar.
Ora, Pedro Pinho, há que referir que vem aqui até Paris no contexto da quarta edição do Festival Regard Satellite, organizado pelo L'Écran, no departamento 92 da Seine-Saint-Denis, mas precisamente tem um certo número de filmes, porque vai haver uma retrospectiva do trabalho do Pedro Pinho, bom, A Fábrica de Nada, o Bab Zebta, bom, não consigo pronunciar, hein? Um certo número de curtas metragens igualmente, para além do Rir e Le Couteau, o Riso e a Faca. Mas fala-se também de uma masterclass, de maneira que o Pedro Pinho vai ter um trabalho imenso, de maneira que ainda vai assistir à projeção dos filmes e ter um debate com os espectadores no final.
Sim, estou com muita expectativa, acho que vai ser uma semana animada. Foi um convite muito bonito que o Festival Regard Satellite me fez, de poder apresentar não só os meus filmes todos, como uma seleção de filmes que eu, enquanto sócio fundador da Terra Treme, coproduzi. E, portanto, há uma seleção de curtas, e há dois filmes, um do Tiago Espanha e outro da Leonor Noivo, que também irão ser apresentados. E, portanto, para mim, obviamente, é um momento de celebração e de festa, e claro, não vejo como, apesar de ser muito intensa a agenda, não vejo como uma canseira de todo. Acho que vai ser um momento muito feliz.
Ora, no que diz respeito à Masterclass, ela realiza-se no dia 17 de fevereiro, o festival, lembro as datas, de 13 a 22 de fevereiro, até antecipamos, na próxima semana vamos ter o diretor artístico do festival. Mas esta Masterclass terá lugar às dia 17 às 20h30, o filme Um Fim do Mundo, e depois é Masterclass de Pedro Pinho, animada por Raquel Schiffer. Aproveito para saudar igualmente a Raquel. Mas relativamente a isso, ao seu trabalho de cineasta, de maneira que, bom, passa anos sem que nenhum filme apareça cá fora. Mas este, o Riso e a Faca, no início da entrevista disse que 6 anos de trabalho...
Bom, sim, eu acho que temos que contextualizar que 6 anos é que foram esses, não é? Aí no meio há pelo menos 2 anos de pandemia, para não dizermos mais.
É verdade.
E depois eu tive várias questões familiares de saúde, duas pessoas muito próximas adoeceram e, portanto, isso também prolongou. Agora, a verdade é que, por mais excepcional e incrível que seja o sistema de financiamento ao cinema em Portugal, porque é um privilégio num país relativamente pobre, não é? A podermos ter esta indústria e este nível de apoio que temos ao cinema, estas coisas demoram tempo, não é? Os projetos, apresentar os dossiês, escrever, e além disso, a minha forma de trabalhar é muito baseada nesta ideia do tempo e nesta ideia de tomar o tempo para a escrita, para uma escrita que é uma escrita coletiva, na maior parte das vezes, para o trabalho de atores, para a rodagem não pode ser engolida pela dinâmica voraz das equipas e da formatação económica que é muitas vezes imposta aos filmes, e depois a montagem. Portanto, isso tudo demora um certo tempo e pronto, e é assim que eu costumo trabalhar. Espero que não, daqui para a frente não demore tanto como este, mas pronto, as coisas não podem ser feitas a correr. Sim,
é o conteúdo e a todo o recurso relativamente às coisas e a profundidade depois do trabalho acabado. Ora, os filmes, as curtas, como os filmes vão ser projetados em diversos cinemas, a Fábrica de Nada vai ser no L'Écran de Saint-Denis, Bab Zebta vai ser no cinema L'Éclair Revival em Paris, as curtas vai ser no L'Écran em Saint-Denis igualmente, e no que diz respeito ao Riso e a Faca, Le Rire et Le Couteau, a versão integral, volto a falar nela, 330 minutos, vai ser no Max Lander em Paris e no L'Écran em Saint-Denis, no sábado, dia 14. Para terem o programa, vocês vão, através das redes sociais, vão ao site do Festival Regaço Atlético, vão encontrar isso tudo. Uma referência ainda, se possível, Pedro Pinho, tem a ver com o filme Bab Zebta, porque, bom, este filme já data de 2008, é bastante interessante porque aí é um... é um trabalho marginal, é uma situação de maneira que, bom, e aí estamos a pensar em todos os milhares e milhares de africanos que tentam na Europa procurar uma vida melhor ou procurar viver, por simplesmente milhares morrem afogados no Mediterrâneo, de maneira que, qual foi o sentido deste filme, de documentário?
Este filme foi uma reação muito instintiva a uma coisa que se estava a adensar nessa altura. Estamos a falar de 2005, 2006, quando eu comecei a trabalhar, eu e o Frederico Lobo e a Luísa Homem começámos a trabalhar nesse filme em conjunto, e nessa altura adensou-se um problema que tinha vindo a crescer, que é uma acumulação muito grande de pessoas que tinham vontade de passar para a Europa, e a União Europeia, no seu conjunto ou individualmente, cada um dos Estados, exercia pressão nos Estados de fronteira do outro lado do Mediterrâneo para reter estas pessoas. E, portanto, havia muita gente a acumular-se nessas zonas de tampão, nas cidades de tampão, de Tanger, Ujda, Ceuta, Melilla, no Adibu, também no Akshot, e às tantas, em 2005, as pessoas que ali estavam puseram-se de acordo, fizeram uma grande assembleia e traçaram uma estratégia conjunta de atacar em massa, atacar, salvo seja, a palavra é muito violenta, de ir sem nenhuma arma, sem nada, apenas com os seus corpos, contra a fronteira, na esperança de que uma parte considerável dessas pessoas conseguisse passar. Pronto, e eu achei isso muito, muito impactante, muito forte, as imagens eram muito violentas, a repressão foi brutal, e portanto achei que nós, deste lado, tínhamos que também tentar perceber o que é que estava a passar, para além do olhar jornalístico, que muitas vezes é enviesado por uma série de preconceitos. E, portanto, começámos a tentar fazer esse filme, e pronto, infelizmente, desde então até agora, esse problema não desapareceu, pelo contrário, acentuou-se, como nós sabemos. Todos os anos morrem milhares de pessoas no Mediterrâneo, nesta travessia, todos os anos cada vez mais florescem sistemas mafiosos de escravização, inclusivamente de pessoas que estão nesta situação, e portanto a Europa continua a subir para o lado e a dizer que não é nada connosco, e inclusivamente a financiar economicamente e militarmente esta catástrofe.
Concretamente, Pedro Pinho, a financiar a Líbia, não sabe muito bem que país vem ser aquele hoje, e a Tunísia, com efeito, eles pagam para isso.
Não só, disse à boca pequena, na altura nós filmámos, dizia-se à boca pequena que a União Europeia pagava por cada pessoa que fosse levada para o deserto para morrer. Não se sabe se isso é verdade ou não, mas a verdade é que há uma série de acordos desde então até agora que envolvem suporte financeiro muito volumoso através da Agência Europeia para as Migrações e para a Fronteira, que é a Frontex, e há inclusivamente a presença militar, há pouca gente que sabe isto, a presença militar de países europeus, por exemplo a Espanha, em algumas destas cidades, ou seja, a Guarda Civil Espanhola, só para dar um exemplo, tem uma esquadra, um quartel-general muito importante na cidade de Nouadhibou, e patrulha a costa de Nouadhibou. Ou seja, isto é uma política deliberada, europeia, concertada, e é uma estratégia, na minha opinião, suicida, mesmo do ponto de vista do que é a construção europeia, daquilo que é o sucesso da Europa no jogo de poderes internacional que agora está em vias de rebentar na nossa cara, não é? Isto é tudo uma profunda irracionalidade.
Enfim, bom, Pedro Pinho, muito obrigado. Damos encontro aqui, vamos voltar ao assunto o próximo domingo e esta banda anonce, como nós chamamos aqui, Le Rire, Le Couteau, vai passar aqui na rádio. Pedro Pinho, uma reação rápida, porque houve um grande senhor a todos os níveis, o João Canijo, que nos deixou no passado dia 29, esta semana, não foi?
Sim, é uma notícia muito triste. O João Canijo foi meu professor de direção de atores, num curso que eu fiz no Gulbenkian, e portanto eu tinha uma relação não muito próxima, mas conhecia-o e era uma figura muito grande do cinema português, e portanto estamos todos ainda muito abalados.
Ele, aliás, há um do filme, agora escapa-me o título, que foi rodado aqui em França, isso tudo, até lançaram um apelo à Rádio Ova para encontrar figurantes, mas enfim, ao que parece é a vida, mas enfim. Pedro Pinho, obrigadíssimo, talvez uma pequenina mensagem para dizer às pessoas, bom, meus amigos, que chuva ou que esteja calor, é melhor ir para as salas escuras, não é?
Sim, eu gostava só de dizer que essa questão da duração do filme assusta muitas pessoas, mas que ninguém é obrigado a ficar até ao fim, como diz o distribuidor francês, ou seja, só que aqueles que gostam mesmo é que chegam ao fim, e portanto eu desafio-vos a vir e acredito que quase toda a gente, ou toda a gente mesmo, irá sair da sala com uma sensação de recompensa.
Pedro, eu faço uma sugestão, era como era antigamente e como fez o Manuel de Oliveira com o Surya de Satã, é que interrompiam ao meio e havia ou um pequeno almoço ou um lanche e depois podíamos ir até ao fim. Mas enfim, é outra história.
Pedro, para o intervalo.
Para o intervalo, pois. Pedro Pinho, obrigadíssimo e até breve, então, aqui em Paris.
Obrigado, então.
Muito obrigado. E nós estamos a terminar esta edição da Passagem Eu do domingo, dia 1 de fevereiro, emissão com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 10 horas, sem esquecer o podcast. Um abraço ao Manel, que graças a ele, senão não havia emissão, não havia nada para ninguém. Bom, e agora, já agora aproveito ao Sérgio. Dá-me aí uma ajudinha, se faz favor, não leves a mal, meu.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.